Vous écoutez RTL.
Bref, un quintet qu'il fallait deviner. 15, 16, 8, 11 et 4, le numéro plus 225, les rapports importants à 15h.
Voilà, pour ne pas gagner, vous écoutez Bernard
Grasse. Non, c'est pas vrai.
Je plaisante, évidemment. À tout à l'heure, 15h. Anne-Léna vous informera, bien sûr. En attendant, on va à Porte de Versailles à Paris, le salon de l'agriculture sur RTL. C'est la curiosité, le coup d'envoi avec Sidonie et Thomas.
Ouais, c'est pas sympa pour Bernard qui trouve souvent les choses dans l'ordre.
Je vais m'occuper des vaches maintenant.
Vous êtes des mauvais perdants, vraiment.
Franchement, c'est pas sympa. Bon, allez. On est effectivement en direct du salon de l'agriculture et on va se passionner tout à l'heure, tiens, pour nos expressions animalières. Il fait un froid de canard sur toute la France, mais ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir comme vache qui pisse, non? D'où nous viennent ces expressions, ces dictons, ces proverbes? Réponse vers 14h30 sur RTL.
Et tout de suite dans la curiosité, bienvenue sur le plancher des vaches.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
On est heureux comme des poissons dans l'eau, sur le plancher des vaches.
La danse de la vache.
RTL.
La danse de la vache. Danse, 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 danse. La danse de la vache.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Sympa ce remix vache du Nam Nam Style.
C'est quand même improbable. Un certain Michel Vartoc qui a créé ça. Merci à Sébastien Dudouis, notre réalisateur, d'avoir trouvé cette mise en eau d'improbable. Voilà.
Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture, 55e édition, Porte de Versailles. À Paris, nous sommes en public et on salue notre public qui est très nombreux.
Bonjour à tous, bonjour à tous.
Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, nous sommes sur le stand Génération Fruits et Légumes Frais, au pavillon 2.2, vous nous reconnaîtrez. Le studio est tout rouge, vous ne pouvez pas nous rater, vous allez bien Thomas?
Ça va très bien, salut Sidonie, salut à tous. Cette expression, on pourrait l'appeler sauter du coq à l'âne, parce que c'est vrai qu'on adore varier les thèmes et les plaisirs, et on est dans notre élément ici au Salon International de l'Agriculture, parce qu'on adore parler de la nature et des animaux.
Et la star ici au Salon de l'Agriculture, peut-être que vous avez fait une photo avec elle, ou que vous avez vu la photo du président de la République avec elle, c'est une vache. Mais depuis quand élève-t-on des vaches en France? Quelles sont les différentes races? Comment elles sont apparues? La vache est-elle responsable du réchauffement climatique? Vous voyez, plein de questions de curieux qu'on a et qu'on va poser à notre invité Philippe Dubois. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien? Vous êtes éditeur, vous venez souvent à la curiosité, vous êtes bovinologue, passionné des vaches. C'est vrai que l'égérie de...
C'est déposé ça, bovinologue? Ouais. Je ne suis pas sûr.
Pas encore.
C'est vrai que l'égérie de ce salon de l'agriculture est très jolie. Elle se prénomme Haute. Elle a 6 ans. Mais d'où vient-elle? Quelle est son histoire?
Alors, c'est une vache de race Aubrac, donc, qui vient de la région de l'Aïeul, sur les hauts plateaux de cette région-là. Elle a 6 ans, donc c'est une vache adulte.
Elle est de quelle couleur?
Alors, comme elle est de la race Aubrac, elle est de couleur froment, c'est-à-dire, on va dire marron clair, avec les yeux. Alors, c'est surtout les yeux qui sont remarquables chez les Aubrac, parce qu'ils sont cernés de kohl. Elle est vraiment, c'est une vache qui est maquillée 365.
Ah oui, elle est coquette.
Ah, très, très coquette.
Et est-ce qu'elle a une particularité?
C'est pour ça qu'on l'a choisie pour être l'égérie du salon, j'imagine.
La plus jolie, bien sûr.
Oui, oui.
Elle a une particularité, cette vache de l'Aubrac. C'est une laitière, c'est une vache qui fait de la viande.
Alors, elle a une histoire intéressante parce que c'était autrefois une laitière et c'était surtout une vache pour le travail. On utilisait beaucoup les bœufs au braque et puis bon, la mécanisation est arrivée. Et du coup, on a plus trop su quoi faire de cette vache. Donc, les éleveurs ont décidé de la transformer en vache allaitante, c'est-à-dire une vache qui va élever des veaux et donner de la viande. Et maintenant, c'est la viande au braque est vraiment une viande qui est remarquable par sa tendresse. C'est vraiment une viande de très haute qualité.
Comment on choisit la vache qui devient le symbole du salon? Comme ça, elle passe un concours, il y a des sélections, région par région, ça marche comment?
C'est quasiment l'élection de Miss France.
Non, mais vraiment, il y a des dauphines aussi alors.
Voilà, il y a des dauphines. Alors, il ne vous aura pas échappé depuis quelques années que c'est toujours une vache qui est à l'affiche du salon de l'agriculture.
Ouais, c'est vrai.
Dommage pour les moutons ou les dindons, mais c'est toujours des vaches. Et en fait, en 2011, on a décidé un peu de personnaliser la chose en mettant donc sous le portrait de la vache, sa race et son nom. Et du coup, ça a déclenché un véritable engouement. Et c'est au syndicat d'éleveurs qui aura évidemment sa race. Donc le salon de l'agriculture en fait choisit tantôt une race allaitante, tantôt une race laitière, tantôt une race à petits effectifs pour que personne ne soit effectivement lésé.
Oui, on comprend qu'il y a un enjeu important pour l'éleveur ou pour la race en question, mais c'est quoi la mission de Haute, la mission de la vache qui est choisie?
Eh bien c'est comme Miss France, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle
fait
a
le tour de France après.
Voilà, une fois qu'elle a serré le sabot au président de la République, à tous les ministres ou comme l'année dernière à tous les candidats à l'élection présidentielle, elle va retrouver une vie, mais pas tout à fait normal, puisque en fait l'éleveur va être obligé, si vous voulez, de faire un peu la promotion de la race. Et pendant deux jours par semaine, pendant plusieurs mois, eh bien la vache va être obligée de s'exposer à droite, à gauche, comme ayant été la vache égérie. Donc c'est un véritable travail, comme Miss France, de représenter en fait n'est pas la vache égérie qui veut.
Et oui, puis il y a des régions, donc il y a forcément des races différentes aussi en France. Combien de races aujourd'hui de vaches, Philippe Dubois?
Alors il y a à peu près une quarantaine de races en France, dont un peu plus de la moitié qui sont des races dites à petits effectifs, c'est-à-dire avec moins de 5000 vaches, donc relativement fragiles, et qui sont des races locales, des races patrimoniales, des races...
Qui étaient en danger, qu'il faut sauvegarder.
Voilà, exactement. Ce sont des vaches qui ont, pour certaines, vraiment des effectifs pas plus de 150 vaches, donc c'est extrêmement faible, mais ça fait partie de notre patrimoine, et donc ce sont des races qui ont bénéficié de toutes les attentions, évidemment, des éleveurs.
Mais Philippe Dubois, comment ça se fait? C'est parce que l'industrie agroalimentaire, je dis ça, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais... favorise certaines races les plus productives, etc. Et du coup, il y a des races qui disparaissent.
Ben c'est un peu ça. Au cours du XXe siècle, ce qui s'est passé, c'est que on a cherché à avoir évidemment des races de plus en plus productives. Ouais. Donc on a sélectionné, on a considéré que toutes ces petites races dont je viens de vous parler n'étaient peut-être pas forcément utiles. Donc on les a abandonnées. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, la mécanisation est arrivée. Beaucoup de races étaient véritablement essentiellement élevées pour la traction. Et comme il n'y a plus de traction animale, eh bien, elles ont été elles-mêmes amenées à disparaître.
Quoi. C'est quoi le nom de ces races là qu'on connaît peut-être moins Vous nous en citez quelques-unes?
L'armoricaine, la bernaise, la race Oudibiou, la race corse, la vosgienne. Voilà,
ouais, ça nous fait voyager.
Un vrai concours de Miss France.
C'est un vrai concours de Miss France, absolument.
Vrai. On y revient. Et alors, à quel moment de notre histoire avons-nous domestiqué la vache? Récit dans un bref instant sur RTL. Je vous rappelle qu'on est en direct du Salon de l'Agriculture à Paris et que ça nous ferait très plaisir de vous voir autour du studio de la Curiosité. Nous sommes au pavillon 2.2 sur le stand Génération Fruits et Légumes Frais.
La danse de la vache. Non, non,
non, non, non. RTL.
De 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut. RTL.
Allô, c'est la Noiraude. Je voudrais parler au vétérinaire.
Allô?
Bonjour docteur.
Bonjour la Noiraude. Qu'est-ce qui ne va pas encore?
La curiosité est un vilain défaut.
De la vache à 100 francs, on en mangeait autant. Autant qu'on en voulait, plus qu'il ne fallait. À midi au dîner, dans le café au lait, de la vache à 500 francs.
C'est Denis Bonnet, c'est déjà plus Thomas Huck.
Oh la vache, la sale vache. Oh la vache, nous rendra fous. Oh la vache, la sale.
Jacques Brel a-t-il pensé aux vaches en chantant la première fois la valse à 1000 francs? J'en suis pas sûr. En tout cas, ça lance très bien cette séquence consacrée aux bovins avec notre invité. On est toujours en direct du Salon de l'Agriculture à Paris. Philippe Dubois, je rappelle que vous êtes ingénieur écologue, bovinologue acharné. C'est comme ça que vous êtes présenté tout à l'heure en entrant dans notre studio. On va remonter loin dans le temps pour essayer de comprendre à quel moment l'humanité a domestiqué la vache. Est-ce que ça date d'il y a des centaines de milliers d'années, millions d'années, ou alors c'est plus récent?
C'est assez récent. En fait, c'est, on va dire, 10-11 000 ans, autour de ce qu'on appelle le croissant fertile, c'est-à-dire entre, on va dire, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Et à partir d'une espèce qui s'appelle l'auroch, qui a disparu au XVIIe siècle, qui est un énorme bovidé, c'était une bête absolument monstrueuse et qu'on a donc peu à peu et patiemment domestiqué.
On l'utilisait comment, oui, cette vache à l'époque, l'auroch? La première utilisation, c'était le transport, c'était le lait, c'était la viande?
Déjà, il fallait la capturer, et puis ensuite, une fois qu'on l'avait capturée, c'était probablement...
Les premiers toreros, en fait.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Les premiers cow-boys,
c'était principalement à cause de la viande, hein, pense que c'était la viande. Ensuite, le lait est arrivé dans une seconde partie. Quoi.
C'est lié à la sédentarisation de l'humanité,
oui,
aussi, c'est la même époque, c'est ça.
La sédentarisation et le développement de l'agriculture, oui.
Comment les Romains, comment dans la Rome antique, on fréquentait cette vache? C'était un compagnon, c'était...
Alors,
Une source alimentaire.
Oui, j'étais une source alimentaire. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas de race, hein, donc la vache était un peu le tout venant, et on l'utilisait surtout pour le lait, pour lequel on pensait qu'il y avait des vertus, ce qui est vrai, et puis pour le travail aussi, pour labourer, pour tirer des charrois, etc. Et donc ça, c'est vrai. Et puis on a considéré qu'il fallait diminuer un peu la taille, et ça, ça s'est vraiment fait entre l'époque romaine et le Moyen Âge.
Et comment ça, on peut pas décider de diminuer la taille d'un animal ?
Par la sélection, c'est-à-dire qu'on gardait les animaux qui étaient les plus petits, puis on les faisait reproduire entre eux, parce qu'une vache, une grosse vache, ça mange beaucoup, une petite vache, ça mange moins. Et puis on a essayé de réduire aussi les cornes, parce que les cornes des orques étaient absolument gigantesques.
Et donc, c'était pas pratique.
C'était pas pratique, un peu dangereux.
Un peu dangereux aussi, voilà, c'est ça. Moi, j'ai du mal à imaginer l'orque, si on, vous publiez un magnifique livre avec toutes les vaches de France, c'est publié chez Delachaux et Niestlé, qui est votre maison d'édition. Si on compare aux vaches qui existent aujourd'hui, l'orque, ça ressemble à quoi ? Est-ce qu'il y a une race qui s'en approche un petit peu ?
C'est-à-dire qu'en fait, au cours du XXe siècle, il y a des Allemands qui ont essayé de reconstituer donc l'orque à partir de races comme la race Camargue, la race de Corse, la race hongroise qui a des très 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 grandes cornes. Il faut imaginer un animal qui était presque deux fois plus gros que nos vaches. Quoi. C'était vraiment un animal gigantesque, très dangereux, et les premiers éleveurs ont eu beaucoup de courage et beaucoup de mérite. De domestiquer cet animal.
Et dans cette histoire passionnante de la domestication de la vache, donc l'humain s'en mêle, sélectionne en fait les races. On est au XVIIIe siècle, c'est une histoire que vous racontez dans votre livre. Que se passe-t-il en Suisse ?
En Suisse, c'est des bons moines suisses qui ont décidé, avant les autres, de sélectionner les bovins et surtout essayer de trouver une homogénéité dans leur troupeau. Donc ils ont en fait été les premiers, avec les Anglais à la fin du XVIIIe, à faire de la sélection en créant de véritables races. Donc avec une couleur de pelage particulière, des cornes particulières, une aptitude laitière ou viande particulière. Et on a créé c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le herdbook.
C'est-à-dire quoi, ça ?
Et le herdbook, c'est une sorte de livre, si vous voulez, de livre généalogique où on met tous les animaux avec leur origine et tout.
Ça veut dire, Philippe Dubois, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vaches sauvages ?
Alors, pas tout à fait. Il reste quelques populations de vaches qui sont retournées à l'état sauvage, notamment en France, on ne le sait pas, dans le Pays Basque, avec la race Béétizou. Mais effectivement, l'espèce vache est une espèce totalement domestiquée. Oui.
Quelles sont les races de vaches qui vont... influencé en quelque sorte dans cette sélection le cheptel actuel.
C'est ce qu'on appelle les races, moi je les appelle les races industrielles, c'est-à-dire vraiment les races qui sont élevées de façon très intensive, aussi bien pour leur viande, comme la charolaise ou la limousine, que pour leur lait, qui par exemple la Primolstein, qui est cette fameuse vache noire et blanc qu'on voit partout dans les champs.
C'est la plus répandue en France, Primolstein ?
Oui, il y a 2 500 000 vaches à peu près.
Vous pouvez la découvrir sur le Twitter de l'émission La Curiosité, on a posé avec l'équipe de La Curiosité devant une Primolstein tout à l'heure, c'est très joli.
Bon, on a encore plein de questions à vous poser, Philippe Dubois. Tiens, par exemple, quand moi je vois écrit au supermarché « veau élevé en France », ça veut dire quoi précisément ? Vous allez répondre à cette question dans un instant sur RTL.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Pardon de m'immiscer les petits curieux. Je profite de ce podcast pour vous inviter à nous rejoindre, moi et ma petite bande, pour À la bonne heure, dès 11h sur RTL. Un invité tous les jours, du rire, des infos étonnantes et le plein de bonne humeur. Avant de passer à table, ce serait dommage de rater ça, non ? Allez, à vous Thomas et Sidonie.
RTL. De 14h à 15h,
la curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Aujourd'hui, on fait les curieux au Salon de l'agriculture à Paris et c'est très sympa. On a croisé plein d'animaux, bien sûr, et puis l'égérie du salon, une vache de l'Aubrac, elle s'appelle Haute et c'est une allaitante. Philippe Dubois, vous êtes notre invité, vous êtes écologue, bovinologue. Ça veut dire quoi allaitante ? En fait, comment une vache peut devenir allaitante ?
Ce sont des races qui ont été sélectionnées pour l'être. C'est-à-dire qu'une vache allaitante, c'est une vache qui, en fait, est élevée pour sa viande et la viande de son veau. Contrairement aux vaches laitières qui, elles, sont élevées essentiellement pour donner du lait. Donc une vache allaitante, c'est une vache qui va être surtout développée pour la quantité de viande, pour sa musculature et pas du tout pour ses performances laitières.
Est-ce qu'il y a une différence de qualité entre la vache et le bœuf en termes de qualité de viande ?
C'est pas tout à fait pareil, on appelle génériquement...
Nous on pose les questions de base, vraiment.
Vous avez raison, mais parce qu'en général...
J'adore la tête que vous faites, c'est pas possible, c'est
mais
pas
non,
ça.
Mais vous avez raison, parce qu'en fait vous mangez jamais de viande de bœuf, vous mangez toujours la viande de vache, parce que 90% de notre cheptel, ce sont des vaches de réforme.
D'accord.
C'est la viande que vous retrouvez dans les steaks.
Steak haché, voilà, au supermarché.
Vous avez tout compris.
Chez le boucher aussi.
Voilà. En revanche, le bœuf, le vrai bœuf, c'est un animal qui va être élevé pendant 4-5 ans et qui va développer une finesse de viande. Et la vraie viande de bœuf, c'est quelque chose qui est d'un autre standing.
Et Philippe Dubois, la vache laitière, donc il y a la vache allaitante, la vache laitière, celle qui donne le lait.
Ouais.
Comment on la forme, comment elle le devient, comment on la pousse à donner son lait?
Alors c'est évidemment là encore le fruit de la sélection, c'est-à-dire qu'on a sélectionné au cours des décennies des animaux qui donnaient beaucoup de lait.
Ouais.
Pour vous donner juste quelques chiffres, une vache allaitante, celle qui va juste s'occuper d'élever son veau, elle donne 4-5 litres de lait par jour, alors qu'une vache laitière très performante peut donner jusqu'à 60 litres de lait par jour.
On force un peu la nature.
On la prive de son veau,
cette vache?
Alors oui. Alors
ça, l'instinct maternel est en train de s'exprimer.
Ah oui,
attention à ce que vous racontez.
Ça m'a ruiné le moral.
C'est un peu ruinant parce que c'est vrai que la vache allaitante, on va lui laisser le veau. De toute façon, elle donne très peu de lait pour élever son veau, pour que le veau, la viande de veau soit tendre. Par contre, la vache laitière, dès qu'elle a donné son veau et qu'elle va donc produire du lait pendant 10 mois, on lui retire le veau pour évidemment prendre la totalité du lait
Et on sait s'il y a de la souffrance si la vache souffre.
Elle est très malheureuse, une vache. Vous savez, c'est l'instinct maternel, quoi.
Ouais.
C'est comme un chat, comme un cheval ou comme une vache. Donc,
ça s'exprime, on la voit déprimée d'une certaine façon.
Quand vous retirez le veau d'une vache, pendant quelques jours, elle va meugler parce qu'elle appelle son veau. Quoi.
C'est étonnant parce qu'on boit quand même du lait alors qu'on est sevré, on n'a plus besoin de boire de lait maternel, et on boit le lait d'un autre bébé, d'un autre animal.
Bah oui, et qui lui, par contre, est bon pour prendre du lait en poudre. Voilà.
Ouais. Bon, ça fait partie des paradoxes, on va dire ça comme ça. On a plein de questions de consommateurs. Tiens, par exemple, quand on va acheter du veau et qu'on voit écrit veau élevé en France, ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire qu'il est né en France? Ça se passe comment?
Si élevé en France, théoriquement, il est élevé en France, il a été abattu en France.
Ouais.
Par contre, vous voyez parfois veau origine France. Alors, origine France, c'est un veau qui a fait le tour d'Europe, en général qui naît en France, certes, donc son origine est française, mais qui a pu être élevé, par exemple, en Italie. Puis, une fois qu'il a bien été élevé, peut être abattu en Pologne et revenir sous forme de caissette en France. Donc, il a fait le tour de l'Europe, mais évidemment, on met veau origine France parce qu'il est né en France.
Mais comment ça s'explique, ça? C'est quoi? C'est une question de marge
C'est une question de marge, de bénéfice, de rentabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, les coûts d'élevage sont beaucoup moins chers dans d'autres pays d'Europe que la France.
Philippe Dubois, on aimerait mieux connaître cette vache. Par exemple, est-ce que c'est une vache, alors évidemment quand on lui enlève son veau, c'est pas la même histoire, mais qui aime vivre en famille, en communauté?
Ah, la vache est une espèce, l'espèce extrêmement sociable. C'est-à-dire que si vous mettez des vaches toutes ensemble qui ne se sont jamais vues, en une demi-heure, il y aura les copines, il y aura la chef, il y aura celle qui va dominer sur les autres.
Ah, il y a une hiérarchie qui s'est créée.
Une hiérarchie, c'est une race. Enfin, c'est une espèce très, très hiérarchique.
Elle est intelligente aussi, la vache. C'est toujours bizarre de poser ça comme question, mais elle a des bons réflexes.
Ouais, mais je suis toujours un peu gêné de répondre sur l'intelligence, parce que
humains, je vais retirer ma question, elle est nulle.
Non, elle n'est pas nulle. Mais non, justement. La vache est un animal qui ne se contente pas de regarder passer les trains. C'est un animal qui s'est créé des amitiés, qui a une mémoire d'enfer. C'est-à-dire, quand vous avez ennuyé une vache, elle s'en souvient 10 ans après.
Elle aime bien l'homme, l'être humain, la vache?
Oui, pour peu qu'il l'embête pas, mais voilà.
Vous l'avez expérimenté, ça, la mémoire de la vache, c'est-à-dire une vache qui vous a dans le pif, si j'ose dire, et elle se souvient de vous?
Une vache qui m'a dans le pif. Moi, j'ai toujours eu des rapports.
Des très bons rapports avec les vaches.
Sympathiques avec
Vous êtes bovinologue,
voilà,
c'est normal.
Donc je n'ai que des amis parmi les vaches, donc je ne peux pas vous dire.
Bon, est-ce que les vaches sont responsables en partie du réchauffement climatique? La réponse, dans un instant, reste avec nous sur RTL. Nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture. Et puis on va s'amuser aussi avec les expressions animalières.
On en a plein. Hein.
Pour oublier qu'il fait un froid de canard et qu'on a la chair de poule.
La danse de la vache.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
De la vache enragée, on s'en est empiffré. On en a dégusté. De la vache enragée.
La curiosité est un vilain défaut.
Me font les vaches font me font les vaches font me.
On est bien entre curieux sur RTL.
Stone. Et Chardin, on est fou de vaches dans la curiosité. On s'est installé au Salon de l'agriculture à Paris pour voir de plus près Haute, la mascotte du salon, la mascotte de l'Aubrac, Philippe Dubois. Je me demandais, il y a combien de vaches en France ?
Vous les avez comptées ?
Oh, il y en a les vaches, les veaux et tout, je sais pas, une petite dizaine de millions à peu près.
C'est énorme. Oui, oui. Est-ce que c'est vrai que les vaches sont responsables en partie du réchauffement climatique ?
Alors, oui et non. Responsable, ça fait... c'est un peu fort.
Bon, elles émettent des gaz.
Voilà, elles contribuent parce que, en fait, les vaches, contrairement à ce qu'on peut penser, rôdent plus qu'elles ne pètent. Ah. C'est surtout le rôt de vache.
D'accord. Qui, en fait, ah, et ça pollue, le rôt de vache.
Oui, parce que ça émet du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre, au même titre que le gaz carbonique, sauf qu'il est 25 fois plus puissant que le gaz carbonique. Donc, ce qui fait qu'effectivement... Dans le domaine de l'alimentation, la vache joue un rôle, effectivement, d'émettrice de gaz à effet de serre.
Et est-ce qu'il y a une solution ?
Elle l'a toujours fait.
Oui, bah oui, c'est dans sa nature, si je veux dire.
C'est un peu dans sa nature.
Mais alors, puisque vous nous dites depuis tout à l'heure que depuis des générations, des siècles, voire des millénaires, l'homme façonne les vaches à son usage, est-ce qu'on peut faire en sorte que les vaches rotent moins ?
Eh bien, des chercheurs de l'INRA y travaillent justement pour essayer de, comment dirais-je, d'inclure dans l'alimentation de ce qu'on appelle des lipides alimentaires qui sont riches en acides gras polyinsaturés. Pour faire très clair, c'est des huiles végétales comme l'huile de lin qui, donc, mixée avec le reste de la nourriture, diminue de 30% les émissions, enfin les rots et les pets, et donc moins de méthane. Donc on va arriver probablement à avoir des vaches moins émettrices.
Je ne sais pas si ça marche pour l'humain, mais enfin, on pourra toujours essayer.
On pourra essayer, oui.
Je ne sais pas pourquoi vous me regardez, c'est très désagréable.
C'est parce que vous êtes mon compagnon de radio,
ouais,
tout simplement.
Je me suis sensibilisé, je ne sais pas pourquoi.
Merci infiniment.
Merci,
merci à vous.
Toutes les vaches de France est le titre du livre que vous publiez chez Delachaux. Et Nisley, et bon salon d'agriculture à vous.
Oui, on est très heureux d'être en direct depuis le salon de l'agriculture, pavillon 2.2. On en profite, tiens, pour remercier les agriculteurs qui nous nourrissent quand même. C'est un sacré boulot qu'ils font et ils sont confrontés à beaucoup de difficultés, on l'a compris.
Vous écoutez RTL.